Bien, bonsoir à tous. Effectivement, j'aurais souhaité qu'on soit plus nombreux, mais enfin, la météo n'était pas favorable. Néanmoins, on va essayer donc de faire ce qui était prévu. Alors, effectivement, comme l'a dit M. Boué, j'ai porté dans ma vie une double casquette. D'abord, médecin pendant 35 ans. Je suis retraité depuis quelques années, où j'ai eu à traiter et à m'occuper de problèmes de santé publique, comme l'amiante ou comme le sang contaminé. Puis ensuite, depuis 1995, j'ai porté une deuxième casquette. J'étais maire d'une commune rurale qui m'a fait m'intéresser plus précisément aux problèmes agricoles et aux rapports entre l'agriculture et la santé. Donc ce thème qui est proposé aujourd'hui au débat me va tout à fait. Alors, agriculture et santé, c'est une thématique, c'est une problématique qui se pose depuis peu. L'agriculture a plusieurs milliers d'âges, d'années d'âge, et pourtant, elle n'a jamais posé de problème de santé jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est en effet à partir des années 50, du siècle dernier donc, que se sont posés des problèmes de santé liés à l'agriculture. Ça correspond très exactement, en fait, à un changement radical de statut de l'agriculture, un changement de nature et d'objectif de l'agriculture. Ça a commencé dans les années 50, ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui et ça continuera demain si on n'y met pas un arrêt ou un frein. On verra ça tout à l'heure. En effet, à partir des années 50, l'agriculture, la paysannerie traditionnelle fait peu à peu place à ce qu'on peut appeler une agro-industrie qui aboutit à une désertification, une disparition du paysan. Je rappelle tout simplement des chiffres qui ont déjà été notés. En 1950, il y avait à peu près pas loin de 3 millions d'exploitations agricoles. Aujourd'hui, il y en a un peu moins de 500 000. En 1950, les paysans représentaient à peu près 40 à 50% de la population active. Je crois qu'aujourd'hui, ils ne sont plus que 3 ou 4%, ce qui est faramineux. Tout le paysage, tout le modèle agricole s'est transformé. On ne peut plus appeler aujourd'hui ce qui se passe dans les campagnes l'agriculture. C'est une agro-industrie. Et ceci a été planifié, organisé, et on a donné le joli nom de modernisation et de restructuration à cette transformation de l'agriculture. Autrement dit, cette agro-industrie a été installée et s'installe plus pour satisfaire des marchés financiers que pour nourrir la population. Et aujourd'hui, les monocultures intensives et les monocultures hyper-productivistes se sont développés de manière extraordinaire. La surface agricole utile n'a pas énormément diminué depuis les années 50, mais c'est le parcellaire, évidemment, qui s'est modifié considérablement par élimination des petits paysans, absorption des petites parcelles, et ce qui permet effectivement cette agriculture qui ne correspond qu'à un seul objectif, un objectif qui est d'ailleurs contenu dans une loi qu'on appelle joliment la loi de modernisation agricole et qui est un objectif qui n'a rien à voir avec l'agriculture vivrière. Alors, ces monocultures intensives et hyper-productivistes sont en fait, ont eu à utiliser plusieurs outils. Bien sûr, la mécanisation, mais pas seulement. Deux outils se sont développés pour permettre cette agriculture productiviste. Ce sont ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire, en fait, des adjonctions à la terre qui sont sous forme d'engrais azotés essentiellement, ou phosphatés, et surtout de pesticides. Et ce sont ces deux outils derniers dont je vous parle qui sont naturellement responsables des problèmes de santé. Car ça a des conséquences énormes sur l'environnement, mais aussi sur la santé humaine. Alors, on ne pourra pas naturellement s'étendre sur l'environnement, bien qu'on l'abordera si on a le temps quand on parlera des OGM, mais je crois qu'on a circonscrit un petit peu le débat sur la santé humaine, conséquence de cette agriculture moderne. Alors, je veux dire quelques mots sur ces produits qui sont appelés là aussi joliment phytosanitaires, la santé pour les plantes ou par les plantes. Ce sont essentiellement les engrais donc azotés, phosphatés. On va surtout parler des engrais phosphatés, c'est-à-dire ce sont les nitrates qui sont ajoutés qui sont des fertilisants ajoutés donc au milieu naturel pour effectivement accroître la nutrition des plantes. Alors soit on épense soit des nitrates industriels, vous le savez, ou alors des nitrates à partir du lisier des élevages intensifs. C'est donc, ils sont destinés à apporter un surplus d'azote aux plantes, et c'est leur usage massif et excessif des nitrates qui est bien supérieur aux besoins des plantes. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'on apporte un supplément nutritif qui n'est pas nécessaire, et on le fait depuis des années, avec les conséquences qu'on va évoquer. Bien sûr, les nitrates sont plus dommageables pour l'environnement que pour la santé humaine, contrairement aux pesticides qu'on évoquera tout à l'heure, mais quand même, en ce qui concerne l'environnement, il faut savoir que la gravité tient en fait à la pollution générale, généralisée des eaux, aussi bien de surface, les fleuves, jusqu'aux embouchures. Et le problème environnemental dû à cet excès de nitrate dans les eaux, c'est bien évidemment ce qu'on appelle l'eutrophisation des milieux donc aquatiques, c'est-à-dire c'est un développement excessif grâce à ces nutriments excessifs d'algues qui empêche évidemment la photosynthèse de se dérouler sous la surface de l'eau naturellement, et par évidemment cet excès d'algues, par putréfaction, aboutit également à une diminution de l'oxygène dissous et donc à en fait à un étouffement de la vie sous-marine. Alors je ne m'étendrai pas sur les algues, ces fameuses algues vertes qui s'étendent jusqu'aux embouchures des fleuves et qui posent un véritable problème environnemental, mais aussi de santé. D'ailleurs, pour la santé humaine, c'est quand même autre chose, mais néanmoins, on va quand même minorer le risque pour l'être humain. Le seul risque prouvé, c'est ce qu'on appelle la méthémoglobinémie. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. En fait, les nitrates par eux-mêmes ne sont pas dangereux. C'est que ce qui est dangereux, c'est qu'une fois absorbés dans l'organisme, dans le milieu, dans le tube digestif, ils peuvent se transformer en nitrite. Et ces ions nitrate NO3, qui se transforme en ion nitrite NO2 avec perte donc d'un atome d'oxygène, ça veut dire que ça le rend plus réactif. Les nitrites sont plus réactifs que les nitrates dans le corps humain. Mais néanmoins, chez l'homme adulte, l'acidité gastrique notamment bloque un petit peu cette pathogénicité des nitrites. Par contre, chez l'enfant, chez le nourrisson et l'enfant, les nitrites sont extrêmement dangereux, et les premiers cas de la maladie se sont révélés dès les années 50, début des années 50, c'est la fameuse maladie bleue du nourrisson, l'enfant bleu, qui effectivement, c'était un premier accident, un enfant est devenu bleu, cyanosé, parce qu'il avait absorbé une eau de puits extrêmement nitratée. Depuis, le phénomène évidemment s'est entendu, il ne touche que les nourrissons et les enfants, et il est dû tout simplement à ces nitrites qui bloquent le fonctionnement normal de l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène évidemment vers les tissus, qui bloque donc cette hémoglobine, qui la transforme en méthémoglobine et qui est impropre, évidemment, à transporter l'oxygène du sang. Cette méthémoglobinémie est d'autant plus grave qu'elle est importante en pourcentage. À 10, 20 ou 30%, on devient bleu, mais on ne risque pas sa vie. Si elle dépasse 70%, évidemment, c'est la mort par hypoxie. Mais les nourrissons et les enfants malades de ces nitrites sont quand même s'élèvent à quelques 200 ou 300 par an quand même, c'est pas négligeable. Voilà ce qu'on peut dire donc à propos des risques des nitrates sur la santé humaine, mais il faut quand même ajouter que le taux des nitrates dans l'eau sert pour mesurer comme index de la pollution des eaux. On a défini une eau potable, normalement dans la nature, en absence de nitrates, une eau de rivière ou une eau de forage comporte 1 mg de nitrate par litre. Mais avec évidemment cet excès de nitrate dans la nature, on a admis qu'une eau pourrait être potable jusqu'à autour de 25 mg par litre de nitrate, et qu'on pouvait même aller jusqu'à 50 mg sans risque pour la santé. Donc aujourd'hui, le taux normal qu'il ne faudrait pas dépasser est de 50 mg. Aucune eau de surface, aucun fleuve, aucune nappe phréatique aujourd'hui n'est en dessous de ce taux de 50 mg. Donc il est nécessaire de dénitrifier par des usines toute l'eau qui arrive à notre robinet. S'il n'y avait pas cette dénitrification chimique, eh bien nous aurions de l'eau toxique. de l'eau qui dépasserait largement les 50 mg. Donc nous buvons de l'eau qui a été traitée, y compris au robinet. Alors vous me direz, les eaux de source sont également polluées par du nitrate, mais elles le sont évidemment en dessous de cette norme de 50 mg. Disons que même une eau comme Badoit ou comme l'eau cristalline tourne autour de 2 ou 3 ou 4 mg quand même de nitrate par litre. Voilà ce qu'on peut dire sur cet intrant qui sont donc les produits azotés. Alors, les problèmes sanitaires qu'on va maintenant développer sont autrement plus graves avec le deuxième intrant qui sont les pesticides. Vous savez que les pesticides sont des substances chimiques qui ont été développées pour être mortelles pour le milieu vivant, végétal ou animal, et elles ont été développées pour être dispersées dans la nature. Chaque année, il y a des dizaines de substances qui sont mises en vente. Il en existe aujourd'hui plusieurs centaines. Et malgré l'élimination chaque année par intermittence de quelques toxiques qui sont véritablement les plus dangereuses, comme le DDT, comme les triazines, dont on va parler tout à l'heure. Du point de vue des pesticides, la France est la première, avec 120 000 tonnes par an de pesticides produits et consommés en France. La France est première en Europe et au point de vue mondial, elle est sur le podium, elle est troisième pour sa production de pesticides. On fait mieux que le football. Hein. Première en Europe, troisième dans le monde, c'est qu'en fait, les pesticides sont indispensables à un modèle agricole dont nous avons parlé, qui est un modèle donc productiviste et intensif. Alors, l'agriculture est la grosse consommatrice de pesticides, mais elle n'est pas la seule. L'agriculture est responsable de 70% de l'utilisation des pesticides. Il reste 30% que se partagent les collectivités locales pour le traitement des bords de route, la SNCF pour traiter, c'est encore un joli mot, traiter les talus, et puis, évidemment, les particuliers, tous ces jardiniers du dimanche que nous sommes, les arboriculteurs qui vont acheter donc des pesticides mortels au supermarché du coin, parce que s'il vous faut une ordonnance pour acheter du paracétamol, il ne vous faut pas d'ordonnance pour acheter du glyphosate, qui est une substance vraiment hyper dangereuse. Je vous avais dit que les pesticides avaient été développés pour être toxiques et pour être dispersés dans la nature. Et c'est ça qui est choquant. Il faut dire que vous avez tous vu disperser ces pesticides, soit par hélicoptère, par avion, ou alors par ces énormes engins qui pulvérisent sur des hectares. Eh bien, il faut savoir que seulement 85%, seulement 15% des pesticides atteignent leur cible. 85% restants sont disséminés dans l'atmosphère. Si bien que les pesticides ou leurs résidus, on va le voir tout à l'heure, c'est pareil, un résidu de pesticide ou un métabolite de pesticide est aussi dangereux que le pesticide lui-même. Et ces résidus de pesticides, on les retrouve absolument partout, partout, partout. On les retrouve évidemment dans l'air que nous respirons, dans les aliments que nous consommons, dans les habitations où nous vivons, sur les moquettes, partout, et surtout dans notre propre organisme. Je vais vous étonner quand je vous dirai qu'une étude américaine qui a été faite sur des milliers d'individus a prouvé que 100%, je dis bien 100%, tous les individus de la Terre aujourd'hui comprennent dans leur corps, dans leur organisme, évidemment des doses plus ou moins importantes, mais de pesticides ou de résidus de pesticides, et pas simplement une seule molécule, plusieurs molécules. Car voyez-vous, le problème des pesticides, c'est que ils ont cette particularité d'être stockés dans les graisses de l'organisme, même à petite dose, et d'être éliminés au bout de plusieurs années seulement. C'est ce qu'on appelle donc l'effet cumulatif dans l'organisme humain. Mais il y a aussi un autre effet extrêmement dangereux, c'est l'effet synergique. C'est-à-dire que chaque molécule, chaque produit, chaque pesticide, ajouté à un autre, potentialise l'effet du deuxième. C'est-à-dire que dans l'organisme, un pesticide plus 1 n'égale pas 2, mais égale 3. Et si vous avez trois pesticides dans le corps humain, 1 plus 1 plus 1 égale pas 3, égale 5 ou 6. C'est ça ce qu'on appelle l'effet synergique des résidus de pesticides. Alors, quand on a ça dans le corps, et puisque les pesticides ont été développés pour être toxiques et mortels pour le monde vivant, il n'est pas étonnant qu'ils soient aussi pour l'homme. Et on appelle les pesticides par leur nom. Quand c'est des herbes qu'il faut le tuer, c'est des herbicides, évidemment. Quand c'est des champignons qu'il faut tuer, c'est des fongicides. Des insectes, des insecticides, les rats, c'est des raticides, des corbeaux, des corvicides. Peut-être demain, on le verra, ce seront aussi des homicides. Ce n'est pas exclu. Encore faut-il distinguer, en fait, dans la toxicité des pesticides, la toxicité aiguë, immédiate, et la toxicité chronique, c'est-à-dire la toxicité à long terme. Alors, la toxicité aiguë et immédiate, c'est la seule toxicité des pesticides qui est étudiée, reconnue et admise par la MSA et par la Sécurité sociale. Et pour cause, car il n'y a aucun doute dans ces cas-là, de cause de lien à effet, car il s'agit toujours d'un accident. D'ailleurs, on a même défini, c'est admettre la toxicité, on a défini une dose létale 50. Une dose létale 50 signifie tout simplement que c'est la dose minimale nécessaire pour tuer 50% d'un lot de rats d'un kilo. Ça, c'est la dose 50. Alors évidemment, plus cette dose est basse et minime, plus le produit est dangereux. Plus cette dose est importante, cette dose létale 50 est importante, moins le pesticide est dangereux. Donc, je vous disais, la toxicité aiguë est due généralement, c'est généralement la conséquence d'un accident de manipulation, une erreur d'osage, ou les enfants qui manipulent également des conditionnements et qui sont intoxiqués et qui produisent quelques heures après des symptômes aigus. On les connaît bien. Ces symptômes qui surviennent quelques heures après peuvent toucher la peau. 40% des troubles, des symptômes touchent la peau, sont des dermites ou des brûlures. 30% c'est des troubles digestifs avec des nausées, des diarrhées, des vomissements. Troubles respiratoires pour 20% avec asthme qui peut aller jusqu'à la détresse respiratoire. Et surtout des troubles neurologiques, car tous les pesticides sont des neurotoxiques. Et ces symptômes neurologiques, c'est de la prostration, des tremblements, une désorientation spatio-temporelle. Bref, des choses pas agréables du tout. Comme c'est une intoxication aiguë, avec une bonne réanimation, on peut aboutir généralement à une guérison de ces intoxications aiguës. Alors, si les intoxications aiguës sont reconnues, comme je l'ai dit, et admises et indemnisées par la MSA ou la Sécurité sociale, il en va tout autrement pour les intoxications chroniques ou à long terme qui sont absolument ignorées. J'ai consulté, vous pouvez le faire, les maladies professionnelles agricoles, vous verrez des tas de choses. Vous verrez les chutes de tracteurs, vous verrez les troubles musculo-squelettiques, vous verrez le stress, mais vous ne verrez pas les cancers, les Parkinson dus aux pesticides, vous ne trouverez pas les pastilles. Toutes les affections que je vais décrire et qui sont atroces et qui sont certainement dues aux pesticides ne sont pas reconnues par la MSA. Il faut apporter la preuve. Si vous faites un cancer comme le lymphome, qui est un cancer connu des agriculteurs, si vous avez un lymphome et si vous voulez l'attribuer aux pesticides ambiants, eh bien, c'est vous qui avez à démontrer que c'est dû, et c'est exceptionnel, que la MSA admette que ce soit donc l'air ambiant et l'air imprégné de pesticides qui vous a empoisonné. Donc, il y a circulé, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de maladie chronique, il n'y a pas de maladie à long terme avec les pesticides. Pour comprendre d'ailleurs ces effets à long terme sur la santé humaine, il faut connaître les propriétés communes à tous les pesticides ou à leurs résidus, qu'on appelle des POPs, ça veut dire des polluants organiques persistants. Il n'y a pas que les pesticides qui sont des polluants organiques persistants, vous avez des molécules comme les dioxines, hein, ou comme les pyrolènes qui sont également des polluants organiques persistants. Alors, on admet qu'ils sont persistants, mais on n'admet pas toujours qu'ils vous provoquent des maladies graves. Donc tous ces résidus sont stockés, comme je l'ai dit, et accumulés dans l'organisme humain, dans les graisses, après leur absorption, soit par la peau, soit par l'aspiration, soit par l'ingestion. Je vous ai dit, c'est la bioaccumulation, et ceci pendant plusieurs années. À cet effet cumulatif, ça a donc l'effet synergique. Et je rappelle la gravité chez les enfants, car dès la phase in utero, la mère, par le cordon ombilical, transmet au fœtus des résidus de pesticides qui vont grever lourdement l'avenir de pas mal d'enfants. De même avec le lait maternel, où on a trouvé souvent plusieurs dizaines de pesticides quand on les a recherchés. Alors, ces résidus qui sont présents et persistants dans l'organisme pendant des années, évidemment, vont exercer leur effet pathogène. Alors, le mode d'action de ces pesticides dans l'organisme humain, tous ces effets sur l'homme découlent évidemment des propriétés qui ont été recherchées dans le développement et dans la création de ces pesticides et qui ont été démontrées chez l'animal. Un bon pesticide, c'est celui qui possède les meilleures capacités à perturber les systèmes endocriniens, immunologiques, neurologiques, génétiques des animaux ou des plantes. Et donc, on recherche le pesticide le plus dangereux, et c'est normal. Donc, les pesticides entraînent tous des perturbations hormonales, ce qu'on appelle, on les appelle d'ailleurs des perturbateurs endocriniens, des perturbations immunitaires, des perturbations neurologiques et génétiques. Ces effets-là, ils sont pourtant démontrés par expertise sur l'animal de laboratoire. Mais on n'en tire pas les conséquences. Encore une fois, ces expertises nient les problèmes à long terme, les problèmes qui surviennent. Il se passe avec eux ce qui s'est passé pour l'amiante. L'amiante provoque des cancers 10, 20, 30 ans après. Et pourtant, ils étaient catalogués comme inoffensifs lorsqu'ils étaient développés. On assiste pour les pesticides, ce qu'on a vu pour l'amiante. Et on verra tout à l'heure si on a le temps avec les OGM. Alors, heureusement, comme on ne peut pas expérimenter chez l'homme les effets à long terme, il y a les études épidémiologiques, et Mme Chevillot va nous en parler tout à l'heure. Heureusement qu'il y a les études épidémiologiques. Vous savez ce que c'est qu'une étude épidémiologique, je le rappelle. Hein. Il s'agit d'évaluer le risque encouru par un échantillon de population exposée à un risque, donc le risque de développer telle ou telle maladie, en comparaison d'un échantillon identique non exposé. Et alors, statistiquement, si évidemment un échantillon développe telle maladie par rapport à l'échantillon témoin, on en déduit qu'il y a une forte probabilité que le risque qui a été étudié soit responsable des affections qu'on a développées, qu'on a vu se développer dans cet échantillon. Et toutes les conséquences à long terme des pesticides ont été étudiées par des études épidémiologiques qui sont monnaie courante aux États-Unis, qui sont beaucoup plus rares en France. Et heureusement que ces études épidémiologiques se développent. Ça permet aux lanceurs d'alerter les pouvoirs publics, même si c'est souvent en vain. Alors, quelles sont donc les conséquences chez l'homme? Ce sont des affections, en fait, dont on observe une augmentation considérable depuis 50 ans. Alors que, d'une manière générale, les cancers ont tendance plutôt à diminuer, on aperçoit que les cancers depuis 1950 ont doublé, pas simplement à cause de la population qui augmente, mais ils ont doublé, et en particulier certains cancers qu'on voyait se développer essentiellement chez les agriculteurs, comme les lymphomes non-Hodgkiniens, qui sont une sorte de leucémie, une maladie des lymphocytes très exactement, ou alors des maladies neurologiques, comme la maladie de Parkinson, qui connaît un développement considérable, et timidement, la MSA a reconnu 2 ou 3 cas de Parkinson chez des agriculteurs après exposition à des pesticides, mais c'est loin d'être la règle. Donc, cette augmentation des cancers, il y a autre chose aussi que les épidémiologistes ont noté, c'est une baisse générale de la fertilité masculine. En Espagne, elle a été véritablement chiffrée à 50%. 50% de baisse de la fertilité masculine par examen, études épidémiologiques et études du sperme qui montrent que, dans ces cas-là, 50% des spermatozoïdes ont disparu du point de vue de leur nombre et de leur mobilité qui a diminué également de 50%. Et aujourd'hui, la baisse de la fertilité masculine est très prise au sérieux parce que, et pour cause, et elle est attribuée effectivement aux pesticides ambiants. Baisse de la fertilité, augmentation des malformations congénitales, ça a été aussi expérimenté en Amérique du Sud notamment, où on a pu étudier des populations dans une même région très soumise à des pesticides par rapport à une, dans les plaines alluviales, par rapport à une population identique en nombre qui habitait des contreforts et qui était beaucoup moins soumise aux pesticides. Et le nombre de malformations congénitales, de troubles du comportement, d'insuffisance de développement de l'intelligence a pu être noté. Les retards de croissance également, et aussi les cancers du sein. Ça, ce sont les perturbations hormonales provoquées par les pesticides. Les perturbations immunitaires également ont été étudiées d'abord chez l'animal, les perturbations immunitaires, c'est-à-dire que ces pesticides ont pour propriété de provoquer une immunodéficience. Et évidemment, quand on a une immunodéficience, vous le savez, on est sensible, on a une sensibilité plus grande à toutes les infections, on a une sensibilité plus grande aux allergènes, et on a évidemment plus de chances, quand on est immunodéficient, d'avoir un certain nombre de cancers. Et je le répète encore une fois, ces cancers qui étaient propres aux agriculteurs, comme le lymphome non-hodgkinien, le cancer du cerveau, le cancer de la vessie ou du pancréas, eh bien, ces cancers-là, qui avait proportionnellement augmenté au début des années 50, à partir des années 50 chez les agriculteurs, se diffuse maintenant dans la population. Les perturbations neurologiques, c'est tout à fait aussi propre aux pesticides. Ce sont les effets neurotoxiques de ces pesticides qui provoquent donc ces troubles du comportement, des troubles cognitifs également, du développement intellectuel et de cette maladie de Parkinson, qui est une maladie neurodégénérative. Voilà, alors évidemment, toutes ces perturbations favorisent la survenue des cancers. C'est la grosse conséquence de ces pesticides. Alors, ce tableau que je viens évidemment de brosser, qui est sombre, risque d'être alourdi par la menace que peuvent faire courir les OGM. Donc, quels sont les rapports des OGM sur la santé humaine. Je rappelle que les OGM ont été développés, que les OGM d'abord ce sont des semences ou ce sont des plantes dont on a modifié le patrimoine génétique par transfert d'un gène venant soit d'une autre plante, soit même du monde animal ou d'une bactérie. Si on a fait ça, c'est parce qu'on a sélectionné des gènes qui ont une certaine propriété, une propriété utile évidemment, aux propriétaires de cet OGM. La majorité des OGM aujourd'hui sont fabriqués par la multinationale Monsanto, vous le savez. Et Monsanto a fabriqué des OGM qui avaient deux propriétés. Et tous ces OGM ont ces doubles propriétés. Premièrement, d'être tolérantes aux pesticides, aux herbicides que Monsanto fabrique, qui est le Roundup. Et on appelle ces OGM des OGM, comment on appelle ça, des OGM, comment s'appelle le glyphosate, comment s'appelle il m'a échappé le nom commercial du glyphosate, le Roundup, on les appelle le Roundup, voyez-vous, le Roundup qui comporte le glyphosate, qui est la substance active donc de cet herbicide, et on appelle ces OGM Roundup Ready, c'est-à-dire moi OGM, je suis Roundup Ready, je suis prêt à recevoir des tonnes de pesticides de Roundup et je mourrai pas. Par contre, le Roundup pourra éteindre toutes les mauvaises herbes entre guillemets qu'il y a autour. Et la deuxième propriété qui a été recherchée par Monsanto dans ces plantations, c'est l'OGM qu'on appelle BT. Ça vient de Bacillus thuringiensis. C'est un bacille qui contient précisément un gène fabricant d'insecticides. Alors, on transfère ce gène dans une molécule, par exemple de maïs, de soja ou de colza, pour le rendre producteur d'insecticides qui a pour effet de lutter contre des prédateurs insectes qui sont dans la nature et qui sont des prédateurs de ces plantes. Alors, ce qui est curieux dans l'histoire, c'est que le marketing qui a été choisi par Monsanto pour vendre ces OGM, c'est de dire que vous utiliserez moins de pesticides. En fait, c'est complètement hypocrite, car le but recherché, c'est de vendre plus de Roundup et c'est de vendre plus de glyphosate. Et lorsque ça a été proposé aux agriculteurs américains, effectivement, ils ont foncé là-dedans sans savoir qu'ils étaient pris dans un piège. D'abord, il fallait qu'ils payent la semence, que la semence est brevetée et que ce brevet oblige les agriculteurs à utiliser comme herbicide le fameux Roundup. Et 3 ans, 4 ans après l'utilisation de l'OGM aux États-Unis, on s'est aperçu que non seulement les doses de Roundup n'avaient pas diminué, mais ça avait augmenté par 3, par 4 ou par 5. Voilà. Alors donc ces OGM, par rapport à la santé, c'est la problématique des insecticides. À partir du moment où ils vont provoquer un afflux encore plus grand d'insecticides et de pesticides dans la nature, eh bien à ce moment-là, on retombe, hein, c'est le poisson qui se mord la queue, on va retomber sur les troubles dus aux pesticides. Alors, donc, les OGM aujourd'hui, donc, c'est encore un outil qui va permettre le développement de cette agriculture dont on ne veut pas et qui va permettre encore d'accroître les risques pour la santé humaine. Alors, ce bilan, qui est plutôt quand même sombre, surtout en France, parce que toutes nos rivières sont polluées, je vous l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, en France, on s'aperçoit que le poids des multinationales agroalimentaires et de leurs lobbies sont considérables, qu'en France, nos aliments sont largement contaminés. Je ne sais pas si vous avez écouté la radio, c'est aujourd'hui, Veillerette, qui est le président d'une association pour la santé des générations futures, eh bien, a décelé dans nos aliments, je ne sais pas combien, dans les aliments d'une cantine, a décelé plusieurs dizaines de résidus pesticides que les enfants mangeaient. C'est faramineux. Donc, c'est assez sombre, mais quand même, l'opinion commence à se mobiliser sur ces problèmes. Le Grenelle de l'environnement est une conséquence de cette action des associations qui sont les principaux pôles de résistance à ce type d'agriculture. L'agriculture bio se développe, mais reste encore marginale. Aujourd'hui, l'agriculture bio ne couvre que 2%, 3% au maximum des terres cultivées. C'est un début, mais il paraît qu'on va vers des fixations, des seuils à atteindre dans les années qui viennent pour augmenter cette agriculture bio. Je crois que le vrai problème, en fait, c'est un problème de société. C'est une façon d'envisager ce qu'on appelle la croissance. C'est une façon d'envisager la consommation comme objectif d'une société au détriment de la santé et au détriment du bien-être des gens. Alors, je crois que dans tout ce que j'ai dit, il y a largement matière à débat. Et pour respecter le temps de parole, je vais m'arrêter là. Merci de votre attention.